passe ici à Paris. C'est le débat tout de suite.
Le débat du jour. Victorien Villaume.
Dans un mois tout pile se tiennent les élections européennes et ce soir on s'intéresse à la gauche en France. Il y a 2 ans, elle avait réussi à s'unir à l'occasion des élections législatives. C'était la création de la fameuse NUP qui a permis d'obtenir un bon score et 150 députés. Mais depuis plus d'un an déjà, cette union a explosé. Le phénomène s'amplifie à l'approche du scrutin des européennes. 2 des principales listes de gauche, la France Insoumise d'un côté et le PS Place Publique de l'autre, se déchirent par déclarations interposées. Certains pointent même du doigt une brutalisation de la vie politique. Alors, les gauches sont-elles irréconciliables, pour reprendre une expression de l'ancien Premier ministre Manuel Valls? Est-ce un phénomène nouveau? Quels sont les sujets de discorde? Et puis la gauche peut-elle espérer remporter des élections dans ce contexte tendu? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour tenter d'y voir plus clair, 3 invités. Virginie Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, professeure-chercheuse à la Kedge Business School. Vous êtes également co-responsable du comité scientifique de la revue politique et parlementaire. Également en notre compagnie, Aurélien Devernois. Bonsoir à vous.
Bonsoir Victorien, bonsoir à tous.
Les auditeurs de RFI vous connaissent, hein, puisque vous êtes journaliste au service politique de la Radio du Monde et vous couvrez, ça tombe bien, plus spécifiquement la gauche. Enfin, avec nous par téléphone, Christophe Battardi. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Historien, vous avez signé l'ouvrage Le programme commun de la gauche 1972-1977. C'était le temps des programmes aux éditions Presse universitaire Bordeaux. Alors pour poser davantage le décor, on va d'abord écouter un extrait avec Jean-Luc Mélenchon, puis Raphaël Glucksmann.
Il voit un génocide au Rwanda, mais il n'en voit pas à Gaza. Il ne comprend pas que le mot génocide est le seul qui nous permet de caractériser ce qui se passe. Donc ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il déshumanise les Palestiniens.
Il y avait le drapeau de Révolution Permanente et de la France Insoumise. Donc voilà, c'est leur conception du débat démocratique, c'est pas la nôtre. Ils ont décidé de faire une campagne qui électrisait tout, alors qu'on a une extrême droite à 40%.
Voilà, donc vous avez entendu l'insoumis Jean-Luc Mélenchon qui tacle Raphaël Glucksmann de PS Place Publique sur le conflit à Gaza, et Raphaël Glucksmann qui dénonce une attitude hostile de la part de la France Insoumise dans ce contexte des européennes. La guerre des gauches, elle est bien là, Virginie Martin?
Oui, elle est bien là, et en même temps, elle a toujours été quand même plus ou moins là. Hein. De toute façon, voilà, si on doit remonter au début du XXe siècle, elle était déjà là, hein, puisqu'on a la SFIO d'un côté, le PC de l'autre. Enfin,
qui voilà. Se scindent et qui décident.
Exactement,
chacun,
les syndicats, évidemment, le fameux congrès de Tours, 1920-21, toute cette période, de toute façon, nous dit déjà tout cela. Donc, rien de nouveau sous le soleil, certes, mais maintenant, c'est aussi un petit peu un marronnier que de parler de ces gauches irréconciliables dont Manuel Valls parlait dès 2016. Certes, parce que aussi, finalement, les choses sont mouvantes, si je puis dire. Est-ce que le Mélenchon de 2017 est le même que celui de 2022, 2023, 2024? Ce ne sont pas les mêmes. Est-ce que l'ancien ministre de Jospin, qui est Jean-Luc Mélenchon, est le même que le Jean-Luc Mélenchon, par exemple, d'après le 7 octobre 2023? Tout ça est mouvant aussi. Quand c'est Benoît Hamon qui représente le PS en 2017, est-ce que c'est la même chose que Raphaël Glucksmann aujourd'hui aux européennes?
Et en même temps, vous dites rien de nouveau sous le soleil, mais est-ce que là, il n'y a pas un peu une forme d'escalade de ce conflit avec des mots forts de part et d'autre?
Oui, c'est vrai, parce que aussi, bien sûr, je pense qu'il y a quand même un avant, un après aussi. Alors, 2022, quand même, quand Mélenchon commence à dire « il faut conflictualiser la vie politique » et c'est comme cela qu'on gagnera et qu'on se fera entendre. Ça, c'est un changement de méthode quand même très fort chez Mélenchon, bien plus fort qu'en 2017. Et puis après, ce 7 octobre 2023, qui est quand même un précipité de tous les conflits politiques et qui révèle véritablement d'autres déchirures, ici et là à gauche, ici et là à droite d'ailleurs, mais ici et là à gauche, et quand même profondément, et je pense quand même de manière durable. Il y aura un avant et un après 7 octobre 2023, c'est évident.
C'est la principale raison, selon vous, Aurélien Devernois, ce conflit israélo-palestinien, le 7 octobre, qui explique cette guerre à gauche en ce moment?
Non, parce que la guerre, elle a commencé avant. On va dire que Gaza, c'est ce qui a accéléré encore les tensions entre les différents camps, parce qu'il y a quand même des camps aussi à gauche et qui ne sont pas forcément liés strictement au parti. on va dire, d'un côté, historiquement, plutôt le Parti communiste et LFI, qui ont une position très pro-palestinienne, une partie des écologistes, et puis le PS, qui a toujours été un peu plus en retrait sur ce dossier-là. Là, ça s'est joué sur des choses différentes. Il y a eu d'abord l'attitude des insoumis tout de suite le 7 octobre, avec ce premier communiqué, qui était... une erreur hein, du point de vue d'un certain nombre d'insoumis, mais en effet, la stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon, comme le disait Virginie Martin, fait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça fait partie de la définition de la politique selon Jean-Luc Mélenchon, et donc quand il n'y a pas de retour en arrière possible, forcément, ça ne peut créer que de la dissension et de l'affrontement. Et en fait, ça a accéléré un processus de décomposition qui avait commencé, je dirais... quasiment avec l'affaire Adrien Quatennens fin 2022, qui avait déjà créé des vraies dissensions et qui, en fait, avait ouvert un petit peu la porte de la division dans cette NUPES qui a vécu, on va dire, 6 mois un peu d'euphorie avec donc quand même des résultats assez bons aux législatives 2022, même si pas aussi bons que ce qui était espéré.
150 députés.
Voilà, mais en fait, en réalité, ils en espéraient plus de 200, et donc ils n'ont pas atteint les objectifs, hein, quels que soient les partis d'ailleurs. Hein, ils étaient tous un petit peu déçus sur le volume global des députés. Et puis, il y a eu ces premiers affrontements au sein de cette Assemblée, sans majorité absolue, etc., qui a donné finalement du poids à la NUPES, puisque elle était en réalité la première force d'opposition en étant alliée. Et puis rapidement, les différentes manières de faire, les différentes manières de voir l'affrontement au sein du champ politique a commencé à créer de la division, et chaque en fait, crise qu'il y a eu au fur et à mesure a accentué ça jusqu'à l'implosion du 7 octobre.
Parce que des dossiers n'avaient peut-être pas été réglés pendant la création de la NUP. Ce regroupement donc, de gauche a été fait un peu à la va-vite, disent certains. Est-ce que c'est ça qui a finalement fragilisé cette NUP qu'on voit aujourd'hui exploser ?
Ah bah oui, parce qu'ils avaient choisi de mettre sous le tapis un certain nombre de sujets qui étaient des sujets majeurs.
Lesquels ?
Par exemple, si on parle d'environnement, la question du nucléaire. La question du nucléaire n'avait pas été tranchée. Et ça, c'est une vision très différente de comment préparer la transition climatique. D'un côté, les communistes disent « nous, on veut continuer avec le nucléaire ». Les socialistes, globalement, disent la même chose, même s'ils avaient un petit peu adouci leurs propos. Mais c'est pas du tout le point de vue des insoumis et des écologistes. Donc ça, il y avait déjà une division de fond. Après, est-ce que des divisions de fond empêchent de faire des alliances dans le but d'accéder au pouvoir ? Non. On le voit aujourd'hui avec le camp présidentiel. Est-ce que dans le camp présidentiel, tous les partis membres du camp présidentiel sont d'accord sur tout ? Je ne crois pas. Mais le problème, pour la gauche, c'est que c'est par définition des partis qui sont arc-boutés sur des principes, sur des choses fortes en termes d'engagement politique, et que toute dissension entre partis prendrait proportion assez forte rapidement.
Oui, mais... excusez-moi. Christophe Battardi, j'aimerais vous entendre sur les sujets internationaux. C'est vrai qu'on vient de dire qu'il y a plusieurs sujets qui peuvent déchirer la gauche, qui divisent la gauche. Les sujets internationaux, c'est un peu historique. Il y a toujours eu des problèmes là-dessus, des visions différentes, par exemple sur la vision de la Russie, la vision de la guerre d'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, cette gauche divisée là-dessus, sur ces sujets inter ?
Alors c'est vrai qu'historiquement, il y a toujours eu des dissensions sur les questions internationales qui, dans un premier temps, paraissent périphériques, sont mentionnées dans les programmes, mais sont remises parfois à des discussions à plus tard, en mettant en exergue des divergences. Et puis, à un moment donné, effectivement, ces questions internationales reviennent un peu en boomerang. La Syrie n'avait pas été un point fort d'achoppement, malgré les positions de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie a fini le travail à Alep. Et malgré tout, ça ressurgit là, maintenant, sur les questions internationales. Alors après, C'est vrai qu'on est dans une période électorale, c'est les moments où les dissensions, où d'un point de vue stratégique et idéologique, on a intérêt à mettre en exergue les différences. Cette histoire de gauche irréconciliable, c'était évoqué tout à l'heure, c'est vrai, ça a été mis en évidence, mis en exergue encore une fois par Manuel Valls, mais ça avait été aussi lors du premier discours d'Anne Hidalgo mis en avant pour essayer de tracer des frontières entre les gauches. C'est un jeu tactique. Là, il y en a d'autres qui se mettent en place avec d'autres forces, mais cette opposition-là est consubstantielle à la gauche. Ça a été aussi rappelé tout à l'heure. Hein, il y a différentes périodes, et même des périodes de forte entente, comme le programme commun, pouvaient donner lieu à des dissensions sur des questions internationales. Ça a été le cas pour les 50 ans de la Révolution, au moment de la Révolution des œillets, pardon, dont on commémore pardon, les 50 ans. Il y avait eu une forte opposition en 1975 entre le PC et le PS. Donc il y a, sur les questions internationales, effectivement, parce que c'est existentiel, il y a la question des droits de l'homme, il y a la question de la guerre, donc forcément, c'est des sujets qui sont épineux et qui sont conflictuels au sein de la gauche.
Virginie Martin, les gauches sont irréconciliables aujourd'hui en France ?
Après, elles peuvent être. Il y a des points, effectivement, qui sont difficiles à concilier, mais elles sont quand même aussi, ici ou là, complémentaires. Quand, par exemple, sous la pression des écologistes, le PS finit par intégrer le logiciel écolo dans ses programmes et même dans ses sous-textes à peu près partout, c'est important quand même. Donc là, il y a quelque chose, tout d'un coup, de complémentaire et on vient s'enrichir mutuellement. Donc ça peut être vraiment très important. Maintenant, c'est vrai que la méthode, on a parlé de la conflictualisation tout à l'heure, mais quand on est dans la révolution d'un côté et dans la réforme de l'autre, comment est-ce qu'on peut concilier ça ?
C'est ça, c'est les deux gauches, la gauche de rue, gauche radicale
gauche des barricades,
et d'un autre côté,
on va dire, et la gauche de gouvernement.
La gauche social-démocrate.
Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir une gauche radicale de gouvernement ? C'est la vraie question, en fait. Je ne suis pas tout à fait sûre, et les Français, je ne suis pas sûr qu'ils aiment ça. Électoralement, est-ce qu'il y aurait assez de monde pour voter pour cette gauche radicale de gouvernement potentiellement, qui pourrait réconcilier justement toutes ces gauches ? Mais je pense aussi qu'il y a des blessures profondes. Par exemple, aujourd'hui, quand on travaille auprès des électorats de la France insoumise, ils sont farouchement et définitivement, semble-t-il, opposés aux social-traîtres social-démocrates que sont les gens qui se réclament du PS.
Avec un sentiment de trahison de François Hollande, qui avait mis sur la table des questions d'immigration,
exact.
Par exemple.
Ça, évidemment, les questions de nationalité, mais aussi, rappelez-vous, cette politique de l'offre qui, à un moment donné, est vraiment la signature de François Hollande, où il va finalement se soumettre peu ou prou à Bruxelles et à l'Allemagne. Et là, effectivement, il y a aussi ces cassures. Donc après, ça, c'est très compliqué. Mais c'est pour ça qu'au niveau économique, est-ce que la social-démocratie et la révolution et l'anticapitalisme sont compatibles ? Je ne suis pas sûre. Au niveau sociétal, qu'est-ce qu'on fait sur les questions néocoloniales, comme c'est très à la mode aujourd'hui, les questions d'universalisme, de différentialisme ? Vous voyez, il y a quand même beaucoup de questions sur lesquelles, peut-être ontologiquement, il y a quelque chose de difficile à faire. Mais comme vous disiez très justement, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire ensemble.
Est-ce que cette cassure, elle a été traitée justement au sein de la gauche, Aurélien Devernois, ce sentiment de trahison par rapport à François Hollande ? Est-ce que cette question-là a été abordée et finalement traitée pour être résolue ?
Alors, c'est un peu compliqué. Mais je voulais quand même revenir sur ce que disait Manuel Valls en 2016. Il ne disait pas que les gauches étaient irréconciliables. Il disait que les gauches avaient des positions irréconciliables, ce qui est plus prudent en réalité. Parce que quand on dit les gauches sont irréconciliables, ça veut dire qu'elles ne pourront jamais travailler ensemble. Quand on a des positions irréconciliables, on peut quand même travailler ensemble. Donc en fait, c'est aussi ça qui tout le monde est quand même en réalité assez pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a une forme de pragmatisme qui s'impose. La NUPES, c'est le summum du pragmatisme. On ne peut pas faire plus pragmatique que ça. C'est-à-dire que pendant 6 mois de campagne présidentielle, ils se sont tapés dessus allègrement. Et ça a été extrêmement violent, parce qu'on parle là de cette campagne des européennes. Alors, la campagne présidentielle de 2022 était très, très violente entre les différents candidats de gauche, notamment sur la question de l'Ukraine. Mélenchon a été très, très, très critiqué. Il a bien rendu sa part en direction de Anne Hidalgo ou de Yannick Jadot. Et puis, au final, un mois après, ils ont topé ensemble et ils ont fait programme commun, candidat commun et 150 députés. Donc, on va dire que, en termes de l'aspect irréconciliable, a été vite oublié en fait entre la présidentielle et les législatives.
Et il y a déjà eu, pardon, d'autres épisodes d'opposition de ce type-là par le passé, avec le traité constitutionnel européen,
voilà.
Les socialistes divisés.
En 2005, alors, mais après le traité de le référendum de 2005. A pavé la voie sur ce qu'on a aujourd'hui en réalité. Parce que la division sur le traité constitutionnel de 2005 était une vraie division idéologique qui a vraiment divisé des partis, hein, puisque au sein du PS, il y avait deux lignes qui s'affrontaient, une ligne du oui, une ligne du non, plus la gauche souverainiste, etc. Ça a vraiment créé une cassure qui aujourd'hui se ressent encore.
Puisque avec Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon est parti notamment du PS. En partie en raison de ça et du traité de Lisbonne qui a été signé plus tard. Donc ça met finalement en perspective tout ce qui se passe. Et pour revenir sur la question de François Hollande, Olivier Faure, depuis qu'il a pris la tête du PS en 2018, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup défendu François Hollande, voire même l'inverse. Et d'ailleurs, François Hollande lui a bien rendu en lui mettant tous les bâtons dans les roues possibles lors du dernier congrès du PS qui, en fait, a mis en place quelque part l'échec de la NUPES, parce qu'à partir du moment où le PS, où Olivier Faure, qui était un fort partisan de la NUPES, s'est retrouvé plus ou moins en minorité dans son parti, ça devenait difficile pour le Parti Socialiste de garder cette ligne pro-NUPES coûte que coûte.
Et en même temps, Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, accuse un petit peu le PS Place Publique et Raphaël Glucksmann de vouloir mettre à nouveau sur le devant de la gauche le social-libéralisme.
Oui, mais je dirais que pour les élections européennes, c'est un petit peu différent. Parce que la stratégie en fait, de LFI, c'est pas de dire que Raphaël Glucksmann est un social-libéral, c'est de dire qu'en réalité, le groupe dans lequel il va évoluer au Parlement européen est un groupe social-libéral. Parce qu'en réalité, quand on regarde les votes de Raphaël Glucksmann au sein du groupe social-démocrate, il est relativement isolé, parce qu'il a voté un certain nombre de fois contre ce que votaient les sociaux-démocrates allemands ou danois, etc. Et donc, en fait, et c'est d'ailleurs ce que dit Manon Bry à chaque débat, elle dit à Raphaël Glucksmann, tu n'es pas ta place dans ce groupe social-démocrate. Donc, en fait, il l'attaque davantage sur son manque de cohérence en termes de politique au sein du Parlement européen, plutôt que sur le fait qu'il soit lui-même social-libéral. Le discours, en fait, derrière ça, c'est de dire... Faites attention, parce que ce qui va se passer au niveau européen, c'est le retour, si les sociaux-démocrates sont bien placés, c'est le retour de la social-démocratie comme ces 20 dernières années, qui n'a fait que nous trahir, qui n'a jamais défendu les plus pauvres, qui n'a jamais réussi on va dire, détourner le cours du capitalisme le plus fort pour essayer de mettre en place une Europe plus juste et plus sociale.
Voilà, c'est un discours, en tout cas. Accusation de gauche molle, de gauche pro-système.
Le débat du jour. Victorien Villaume.
Vous écoutez le débat du jour, la suite, tout de suite, avec, nous sommes en compagnie, je le rappelle, de Virginie Martin, politologue, professeure, chercheuse à la Kedge Business School, co-responsable du comité scientifique de la revue politique et parlementaire. Aurélien Devernois est également avec nous, journaliste au service politique de RFI, et puis par téléphone, Christophe Battardi, historien qui a signé l'ouvrage Le programme commun de la gauche 1972-1977. C'était le temps des programmes. On se pose après présent la question, si vous le voulez bien, de l'avenir de la gauche dans ce cadre de guerre dont on vient de parler. Est-ce que Christophe Battardi, excusez-moi, les dissensions actuelles au sein de la gauche vont leur porter préjudice, notamment aux européennes?
Alors, moi, j'aurais des difficultés à vous répondre. Je suis historien, pas politiste, mais je vais quand même répondre. À travers l'histoire, on voit que les dissensions qui ont pu être importantes, en fait, c'est l'électeur qui tranche après. Et c'est l'électeur de gauche. Et l'électeur de gauche, on voit bien au moment de la création de la NUPES, ça a été dit, c'était inenvisageable, il ne pouvait pas y avoir d'accord ensemble. Et pourtant, les électeurs ont plutôt plébiscité, pas à la hauteur de ce qui était attendu, mais ont plutôt plébiscité cet accord. Et à travers l'histoire, on voit bien qu'il y a des divergences malgré tout, entre la droite et la gauche, malgré ce que certains veulent dire. Et ça ne se joue pas, selon moi, entre gauche radicale et gauche molle. Du reste, Raphaël Glucksmann, dit à travers ses meetings qu'il n'est pas le représentant de la gauche molle, essayant pour le coup d'effacer un petit peu la parenthèse qu'il juge sans doute trop libérale de François Hollande. Donc là, on est dans un moment effectivement conflictuel, difficile pour la gauche et d'opposition très forte, mais ça ne préjuge en rien de ce qui pourra se passer par la suite, surtout qu'au soir du premier tour, on se rendra compte que l'extrême droite est à 40%, est à plus de 40%, et que là, il y aura un enjeu et un risque pour la démocratie en France qui sera très fort. Et de ce point de vue-là, je pense que se réactiveront, comme sans doute à travers l'histoire, des moments où la gauche sait, sur un risque démocratique, se retrouver, peut-être avec d'autres forces, mais c'est peut-être impulser ce retour à de l'action et à du collectif pour y faire face. Et ça va être un enjeu qui, de toute façon, se posera dès le soir du premier tour au regard du score de l'extrême droite qui va être extrêmement important en France et en Europe.
Virginie Martin, qu'en pensez-vous? Les électeurs de gauche, finalement, au moment de voter, se retrouvent derrière un candidat qui rassemble au moment des élections. Ils se retrouvent derrière le candidat qui a été choisi. Finalement, ils se fichent un peu de ces batailles internes.
Vous posez en creux une autre problématique. Quel leadership? Quel leader? Quelle incarnation, justement, à gauche? Parce que c'est bien ça, le problème. Aujourd'hui, on voit bien que personne ne serait capable de rassembler justement du parti du PRG à LFI, en passant par le PC, le PS, Europe Écologie Les Verts. Personne n'est capable de faire ça. S'il y a eu programme commun par le passé, c'est parce qu'il y a eu aussi des hommes, en l'occurrence à l'époque des hommes, qui ont porté ce programme commun. Donc il faut bien quand même, l'histoire se crée aussi via des personnes. Et ça, c'est quand même important.
Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon, et comme certains membres du PS, fait un peu figure de repoussoir auprès des électeurs pour...
Oui, à ce jour, les enquêtes électorales montrent bien que toute la gauche ne se retrouverait pas comme un seul homme ou une seule femme derrière un Jean-Luc Mélenchon. Oui, ça, c'est assez évident. Par ailleurs, par rapport à ce qui vient d'être dit aussi, on va être dans l'après-Macron. Et ça, c'est très important, parce que si le PS est aussi exsangue et si la droite classique est aussi exsangue, c'est aussi parce qu'il y a quelqu'un, un jour, quelque part, qui a décidé qu'il n'y avait plus de clivage gauche-droite. S'il n'y avait pas Macron, on n'en serait peut-être non plus pas là. Olivier Faure n'aurait peut-être pas vendu les bijoux de famille et la rue de Solferino. Le PS serait un peu plus riche, de plus de députés, parce que c'est aussi une question d'argent à un moment donné. Attention, c'est très important aussi. Quand on gagne des élections, on gagne de l'argent. Et quand on perd de l'argent mécaniquement. Donc ça, c'est aussi important. Il va falloir qu'ils se refassent aussi un petit peu de la trésorerie, tous ces gens, ces partis de gouvernement. Et donc, si le clivage gauche-droite redevient ce qu'il a toujours été en France et qui, à mon humble avis, est extrêmement nécessaire pour imaginer quand même des alternances. C'est compliqué quand même. Quand vous avez un président de la République comme ça qui vient manger très à droite et très à gauche, à un moment donné, comment vous récupérez de l'oxygène démocratique? Au RN, à Reconquête potentiellement, à LFI et dans les gauches et les droites radicales par définition. Donc tout d'un coup, si... Finalement, avec ce clivage gauche-droite qui pourrait revenir à la faveur de l'absence de Macron, peut-être effectivement le PS redeviendrait un peu le centre de l'affaire, tout comme LR pourrait redevenir le centre de l'affaire à droite. Et du coup, mécaniquement, d'une certaine manière, même s'il y a une adhésion quand même forte aux idées du RN, mais mécaniquement, tout de même, le RN redescendrait à la portion qui, à mon avis, est au poids qui devrait être le sien dans une démocratie plus saine et qui fonctionnerait mieux d'un point de vue constitutionnel aussi.
Aurélien de Vernois, vous êtes d'accord avec cette analyse, le fait que le départ d'Emmanuel Macron pourrait entraîner une autre dynamique électorale, et notamment pour la gauche?
J'en suis pas sûr, parce que je pense qu'aujourd'hui, celle qui représente l'alternance en France, et c'est d'ailleurs ce dont on se rend compte souvent quand on est en déplacement, quand on rencontre un peu les Français, et c'est aussi ce que nous disent les politiques, c'est Marine Le Pen. Aujourd'hui, l'alternance, un certain nombre de personnes assimilent le fait que l'alternance en 2027, c'est Marine Le Pen. Parce que, justement, la gauche apparaît toujours divisée, que Jean-Luc Mélenchon est en effet très clivant au sein même de sa famille politique, enfin, ou de son espace politique, qui est l'espace de gauche, qui aujourd'hui, il faut le rappeler, représente entre 30 et 35% des voix. Donc c'est déjà compliqué sur le papier de se dire on peut aller gagner une présidentielle en partant d'une base qui est à 30%. Et ça crée des difficultés. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'offres alternatives à Jean-Luc Mélenchon dans le leadership à gauche, comme disait Virginie Martin, ça c'est un vrai souci. Et d'ailleurs, on aboutit à des choses qui sont assez paradoxales. Moi, j'ai fait un déplacement il y a quelques mois en Gironde et je suis allé à la Fédération socialiste de Gironde et donc je leur disais bon. 2027, vous en pensez quoi? Ça pourrait être qui? Parce que c'est des questions qu'on pose souvent. Mmh. Et les gens me répondent François Ruffin. Parce qu'ils disent surtout pas Mélenchon. Mais pourquoi pas François Ruffin? En fait, ils ont quelque part aussi assimilé, là on reparle d'alternance, que le leadership à gauche, il est chez les Insoumis. Quoi qu'ils en pensent, et de l'aveu même de cadres haut placés du PS, ils reconnaissent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de personnalité à mettre en avant.
C'est l'un des principaux freins, enfin une problématique de la gauche pour qu'elle se rassemble, le fait que Jean-Luc Mélenchon veuille la présidence potentiellement. Il ne l'a pas annoncé officiellement, mais c'est ce qui est pressenti.
Après c'est toujours de la tactique, c'est-à-dire qu'il y a deux visions différentes des choses selon où on se place à gauche. Du côté de LFI, la vision de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire si j'arrive à me qualifier au second tour, de toute façon, les gens qui se pincent le nez face à moi jusque-là vont quand même se ranger derrière moi. Il y aura un vote, toute la gauche se rangera derrière moi et j'aurai du vote utile aussi parce qu'on ne voudra pas du Rassemblement National au pouvoir. C'est son analyse. Du côté du Parti Socialiste ou des écologistes, on dit au contraire, si Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour, il n'aura pas la capacité de rassembler assez pour faire face, par exemple, à une Marine Le Pen.
Bah 2022, on est un exemple, de toute façon.
Oui, non, mais bien sûr. C'est vrai que 2022, il y a eu aussi la fin du barrage républicain qui a un peu troublé les choses,
oui, mais enfin...
puisqu'il n'y a pas eu... Mais c'était une preuve, c'est-à-dire que les électeurs d'Emmanuel Macron ne sont pas allés voter pour les candidats de la NUPES. Et la NUPES a perdu un certain nombre de députés, justement parce qu'ils n'ont pas pu compter sur ce barrage républicain. Il n'y a pas de raison qu'en 2027, ça change. Et donc... Il y a une vraie opposition, et là c'est assez irréconciliable, je pense, d'analyse de comment pourrait se passer la campagne 2027 et l'élection 2027.
Alors comment faire, Virginie Martin? Comment la gauche là peut se positionner pour tenter de se réunir et tenter de faire barrage réellement à l'extrême droite en France? Il nous reste à peu près une minute.
D'abord, le PS doit se remettre de son uppercut de Benoît Hamon de 2017. Je crois qu'ils s'en sont toujours pas remis. Et ça, c'est quand même très compliqué. Il n'y a pas eu d'adjournamento vraiment. Il n'y a pas eu de vrai travail aussi sur le programme. Ça, je trouve que c'est aussi assez préoccupant. Et peut-être aussi se mettre à la recherche d'un leader un peu plus, peut-être un peu moins clivant et un peu moins conflictuel que Jean-Luc Mélenchon, peut-être aussi un peu plus jeune, parce qu'il y a quand même un problème d'âge. Hein. Arrêtons de se cacher.
D'ailleurs, ça devait être sa dernière
Bien sûr. Et rappelons-nous aussi, et peut-être un petit trait d'humour ici ou là, où certains le prendront au contraire au sérieux, certains ont envie de François Hollande et pas de François Ruffin.
Je ne sais pas s'il y en a beaucoup quand même. J'ai un petit doute là-dessus.
Ça se dit dans les chaumières ici ou là.
Eh bien, je ne me prononcerai pas. Merci beaucoup pour votre présence ici. Aurélien Devernois, journaliste au service politique de RFI, en charge de la gauche. Virginie Martin, politologue, professeure-chercheuse à la Catch Business School, co-responsable du comité scientifique de la revue politique et parlementaire. Et puis merci également infiniment à vous, Christophe Battardi, historien, auteur du livre Le programme commun de la gauche 1972-1977. C'était le temps des programmes, un livre donc publié aux éditions Presse universitaire Bordeaux. Je remercie également à la réalisation Claude Battista, évidemment, merci beaucoup Claude, et puis Florence Ponce m'a aidé à préparer cette émission. Restez avec nous sur RFI dans un instant, le journal suivi de Décryptage et juste après Afrique Soir avec Benoît Almeras. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Victorien, bonsoir à tous.
Alors de quoi va-t-on parler ce soir?
Eh bien du Tchad qui sera à la une d'Afrique Soir avec l'attente des résultats de la présidentielle. Des résultats qui devraient tomber dans les heures à venir, 12 jours avant la date initialement prévue et 3 jours à peine après le scrutin. L'Agence nationale de gestion des élections l'a annoncé cet après-midi. Nous ferons le point donc dans Afrique Soir. Nous irons aussi au Burkina Faso où les autorités militaires militaires réclament au secteur public et au secteur privé la liste de leurs employés âgés de 18 à 35 ans. Ces derniers sont obligés d'effectuer leur service national, Victorien.
Merci beaucoup, Benoît Almeras. Afrique Soir, c'est dans 30 minutes environ sur la Radio du Monde. Ce jeudi,